department at 514-448-4041, extension 6788. Or email us at news@ckut.ca. Again, that's news@ckut.ca. Stay tuned for Cafe coming up next, and we'll see you next time.
Pandémie, CKUT a décidé de rapporter indéfiniment notre campagne de financement annuelle. Mais nous apprécions toujours les dons pour soutenir nos opérations durant la fermeture. Le moment présent exige des nouvelles approches créatives, et des douzaines d'animateurs et animatrices ont relevé le défi en maîtrisant les logiciels pour vous livrer les émissions de très haute qualité. Nous sommes conscientes que CKUT 90.3 FM vous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous faisons appel à votre générosité. Si votre situation vous le permet, nous vous invitons de vous rendre sur notre site web ckut.ca et de faire un don en appuyant sur le bouton vert de donation ou d'envoyer un chèque par la poste à Radio CKUT 3647 rue Université H3A 2B3 Montréal, Québec. Merci.
Bonsoir et bienvenue à votre émission culturelle Café à CKUT 90.3. Ici Anthony au micro. Ce soir, nous vous présentons dans un premier temps une longue entrevue avec l'écrivain Mathieu Bellil qui vient tout juste de publier son deuxième recueil d'essais intitulé L'Empire invisible. Ensuite, nous entendrons Esther nous parler de C Magazine et de Cinéma Politica. L'émission se terminera avec Ève Laurence, qui nous parlera du documentaire « La dernière plongée de Dave ». Mais d'abord, commençons avec une chanson qui nous rappelle de vivre de joie et de destin.
Thank you. faire mieux. Un jour avant d'être vieux, j'ai perdu mon enfant. Il est parti comme un voleur. J'ai bien peur qu'il se soit sauvé avec mes plus belles années. J'ai bien peur qu'il se soit sauvé avec mes plus belles années. Et plus rien ne sert d'en parler. Plus rien ne sert d'en parler.
De retour à l'émission Café à CKUT 90.3, vous venez d'entendre La belle journée 1971 de l'artiste Lumière. Derrière ce lumineux pseudonyme se cache le multi-instrumentaliste Étienne Côté, membre des groupes Canailles et Bon Enfant. Il a sorti ce joyeux single le 2 novembre sous l'étiquette Bon Sound. Selon ce que ça se dit entre les branches que je connais, on peut s'attendre à un album très prochainement. Gardez les oreilles ouvertes. Donc, à présent, nous allons parler d'une autre œuvre sortie en novembre. J'ai nommé « L'Empire invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique » de l'essayiste Mathieu Bellil. Dans ce recueil d'essais, l'auteur remet en question l'idée reçue que l'Empire états-unien serait en déclin. Il défend plutôt l'idée que cette hégémonie culturelle serait en pleine métamorphose. Ce serait dorénavant par le monde virtuel et plus particulièrement par les monstres d'Internet que sont les grandes firmes américaines Netflix, Google, Uber, Apple, Facebook, Amazon et ainsi de suite. Donc tout ça qui s'incrusterait dans notre quotidien, dans notre manière de vivre et de penser. Bellil essaye ainsi de montrer cette invisibilité de même que les effets que cette puissance aurait sur nous. Donc, avec mon ami Antoine, on a invité Mathieu Bellil à nous parler par l'entremise d'une autre firme américaine qui s'impose présentement dans nos vies. J'ai nommé Zoom. Bonsoir Mathieu, vous allez bien?
Oui, bonsoir, oui, ça va bien, merci. Merci de l'invitation.
Merci, nous qui te remercie. Vous êtes rendu à combien de rencontres Zoom aujourd'hui?
J'ai passé ma journée sur Teams du concurrent Microsoft. Alors, j'atteins les 5-6 heures, là.
Ça ressemble à ça, moi aussi. Je travaille à l'école et j'ai passé ma journée. Mais nous, c'est Meet de l'autre cousin, le cousin très, pas très éloigné. Donc, je vais y aller tout de suite avec la première question. On va se lancer. Dans vos essais, vous n'hésitez pas à utiliser des œuvres ou des traits culturels québécois pour expliciter la métamorphose de l'Empire. À quelques endroits, vous laissez entendre que le Québec se place comme un endroit privilégié pour comprendre, mais aussi pour subir l'Empire. Mm-hmm. Pouvez-vous nous expliquer quels sont, selon vous, les principaux effets de cet Empire invisible? Et plus particulièrement, en quoi le Québec est, disons, un cobaye ou un laboratoire particulier pour comprendre cette puissance?
OK. Merci. D'abord, je dirais pour répondre à l'idée de la spécificité du Québec ou, disons, de la singularité de sa position, bien entendu, c'est d'abord parce que le Québec est un voisin immédiat des États-Unis, ce qui est un peu une évidence. Au fond, on aperçoit presque l'Amérique ou les États-Unis depuis la cour arrière. On voit au loin, à l'horizon, les États-Unis sont là. La deuxième raison, c'est que, bien sûr, le Québec est soumis à de manière assez frappante et évidente à la présence médiatique ou à la puissance aussi économique des États-Unis. Il ne faut quand même pas oublier qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 80 % des exportations du Québec, d'un strict point de vue économique, qui s'en vont aux États-Unis. Okay, ça, c'est... Donc, on est dans un lien d'étroite, étroite dépendance. Et je pense que la singularité du Québec, mettons, si on compare par exemple au reste du Canada, c'est que parce que nous sommes une culture, disons, française, francophone, que nous avons aussi des racines et des liens assez étroits avec l'Europe, nous sommes dans la position d'éprouver l'étrangeté, l'altérité américaine, bien davantage, par exemple, que le reste du Canada, pour qui les États-Unis constituent culturellement une sorte de prolongement naturel d'une carrière, c'est-à-dire tous les Canadiens ayant un minimum de succès finissent par traverser la frontière et aller à Hollywood. D'ailleurs, je crois que cette semaine, Justin Bieber et The Weeknd, j'ai entendu ça, ont gagné des prix aux États-Unis, et c'est tout à fait normal, en quelque sorte. Et donc, pour les Canadiens, ça relève presque de l'angle mort, ou en tout cas d'une sorte de non-réflexion, ce qui ne veut pas dire que le Canada ne se définit pas depuis toujours comme le pays qui n'est pas les États-Unis. Hein. C'est quand même l'héritage des loyalistes qui ont essayé, dans le fond, d'échapper à cette idée d'une indépendance et d'une rupture avec l'Europe. Donc, autrement dit, le Québec est particulièrement bien placé à cause aussi de la culture québécoise qui, d'emblée, est sensible à tout ce qui relève du minoritaire, de cette fragilité qui est la nôtre, de la langue, et bon, etc. Par ailleurs, c'est quoi, si je me souviens bien, Anthony, de votre question, c'est quoi un peu, comment se manifeste cet empire invisible, c'est ça?
Exact, oui, oui, oui.
C'est certain que les États-Unis demeurent une puissance drôlement visible encore. Donc, c'est une des premières réactions qui m'ont été faites par nul autre que mon plombier qui était venu et à qui je racontais un peu mon livre au mois de novembre passé, donc il y a un an, et je lui parlais de l'Empire invisible, puis il m'a répondu un peu bourru. « Comment ça, invisible? Ils sont partout, OK? » Puis bon, il a ajouté quelques...
Ben, bonne réponse, bonne réponse.
Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis, sans bien sûr renoncer à leur présence matérielle, à leur puissance militaire extraordinaire, à leur poids économique, sont en train, dans un certain sens, de s'invisibiliser, c'est-à-dire qu'ils ont découvert des moyens beaucoup plus efficaces que les moyens traditionnels de la conquête militaire et même économique. Ils passent par des voies dématérialisées que sont les voies du web, et dont il ne faut pas oublier d'ailleurs que c'est une invention militaire américaine, ce n'est pas un innocent comme détail, et que bien sûr, le GAFAM, hein, qui forme une sorte de pointe avancée de cet empire invisible, sont des moyens par lesquels les États-Unis peuvent se rendre encore beaucoup plus loin dans leur invasion ou leur occupation, serait peut-être le mot plus juste, leur occupation de l'espace mental, culturel, linguistique, l'espace de travail dans lequel nous évoluons. Et actuellement, nous travaillons nous-mêmes ici, comme vous l'avez bien souligné, à partir d'un logiciel qui nous fournit, au fond, les moyens de la communication. Et le côté invisible, c'est qu'on ne voit pas les États-Unis dans ce qu'on est en train de faire, mais mine de rien, par toutes sortes de moyens directs et indirects, l'Amérique trouve les moyens de nous fournir ce que j'appellerais la matrice, pour reprendre le titre d'un film hein, qui a marqué la fin des années 90, la matrice dans laquelle nous devons fonctionner.
Je vais prolonger, si on veut, cette réflexion, c'est-à-dire je vais vous inviter en fait à prolonger cette réflexion sur notamment sur la question de la culture en revenant en fait sur une idée que vous avancez dans la dernière partie de votre essai. Vous affirmez, je vais vous citer, que plus les années passent et moins la fiction vous intéresse. Vous indiquez par ailleurs que ce désintérêt concerne singulièrement le roman et avec lui une certaine idée de la littérature. Or, j'aimerais que vous reveniez avec nous sur cette transformation de votre rapport à la fiction, d'une part, et que vous nous expliquiez, d'autre part, comment cette transformation informe et a informé, évidemment, votre travail d'écriture.
Mm-hmm. C'est une grande question et qui a une résonance très personnelle pour moi, parce qu'il faut que vous sachiez que j'enseigne la littérature, vous le saviez, et que vos auditeurs le sachent, que j'enseigne la littérature, que j'ai fait un doctorat sur le roman, romans français, entre autres des questions liées à l'humour, au merveilleux, bon, etc. Bref, la littérature et la fiction en particulier occupent ma vie intellectuelle depuis longtemps et l'occupent toujours. Je m'émerveille encore de voir à quel point, avec des étudiants, je peux comme ça entretenir une discussion longue et sérieuse et profonde à propos de gens qui n'existent pas. Madame Bovary, Anna Karénine ou qui d'autre. Et il y a une sorte de miracle là-dedans. Alors, pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression que, d'abord, que la frontière, peut-être le sentiment que la frontière entre la réalité et la fiction s'est brouillée depuis des années. Et d'ailleurs, pour moi, nous vivons dans une époque où singulièrement toutes les frontières entre la vérité, le mensonge, la fiction et la réalité sont brouillées au point où on a l'impression parfois que la réalité est devenue fictive ou que la fiction est devenue réalité, comme on a l'impression que la vérité est devenue mensonge et le mensonge devenu réalité. Tout le phénomène des fake news nous amène à une sorte de remise en question de frontières qui, auparavant, peut-être naïvement, dirais-je, mais auparavant, nous paraissaient plus nettes. Okay? Premièrement. Deuxièmement, j'ai l'impression que la fiction, et on s'était peut-être fait l'idée que, construit cette idée que la fiction était une sorte de refuge pour les malheureux, pour ceux qui se trouvaient un peu déçus de la réalité.
Hein, que c'est un peu moi, ça. Je me sens touché.
Et je pense que c'est un peu moi aussi, à certains égards. Comme si la fiction nous offrait un abri, qu'elle était peut-être même une sorte d'arche de Noé. Hein. Le monde est dans le déluge, et nous entrons dans cette arche et nous nous sentons un peu protégés. Que la fiction, en quelque sorte, c'était la revanche des faibles. C'est une formule qui existe. Et en un sens, aussi, la fiction a longtemps, je pense, eu ce caractère un peu sulfureux, c'est-à-dire elle était considérée comme le lieu d'un certain danger. C'est pas pour rien que de siècle en siècle, les philosophes s'en sont méfiés, ont cherché à la régenter. On voit ça chez Aristote, qui, au fond, accepte qu'on s'intéresse à la poésie pour autant qu'elle ait cette fonction éducative, cette fonction, on pourrait dire, didactique, qu'elle permette d'éduquer, de châtier les mœurs, hein, comme on le disait à propos de la comédie dans l'Antiquité. Et le problème, et bon, les jésuites ont interdit, on cherchait à interdire le roman, on s'est toujours méfié du roman. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la fiction m'apparaît, si j'en reviens à l'Empire américain, comme l'un des moyens privilégiés par lesquels cet empire s'étend. Et le phénomène Netflix est un exemple, mais en réalité, les avatars de Netflix sont déjà à l'œuvre, Prime, Disney, Crave, etc. Et toute cette machine me donne la singulière impression que la fiction, non seulement n'est pas la revanche des faibles, mais qu'elle est l'instrument privilégié des forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fiction n'est plus quelque chose comme une sorte de force mineure, marginale, qui vient ébranler les fondements de la réalité, que la fiction est l'instrument privilégié par lequel on occupe l'espace, par lequel on détermine la nature même de la réalité. Et pour moi, les États-Unis sont passés maîtres dans l'art de raconter non seulement l'histoire avec le H majuscule, hein, comme on le dit parfois, les vainqueurs écrivent l'histoire, sont ceux qui écrivent l'histoire. En fait, les vainqueurs n'écrivent pas seulement l'histoire avec un grand H, ils écrivent toutes les histoires, avec le petit H aussi. Et cette impression même qu'au fond, on va nous gaver littéralement, même quand on n'en aura plus envie. Hein? Next episode in 5, 4, 3, 2. On va nous littéralement nous gaver d'histoires fictives. Et ça m'amène, hélas, à un peu m'éloigner de la fiction.
Par peur d'être complice des histoires qui viennent de l'Empire, vaut mieux ne pas en faire, parce que peu importe laquelle qu'on va raconter, on va quand même finir par l'aider ou être un allié sans le vouloir, si je comprends bien.
Dans un certain sens, oui. Et c'est peut-être pour cela que puis en même temps, je ne peux pas accepter qu'on cède comme ça le monopole de la fiction aux États-Unis, par exemple. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et je ne pense pas que c'est ce qui va arriver. Et je ne pense pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais par contre, j'avoue une certaine fatigue, une certaine usure qui vient simplement, je pense, de la surabondance, d'une sorte de trop-plein de fiction, qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on dirait davantage que la fiction est devenue notre étalon de mesure que la réalité. C'est-à-dire, on dit très communément « la réalité dépasse la fiction », comme si, en fait, c'est la fiction qui était devenue notre
étalon, là, c'est l'or, là.
Voilà, alors notre étalon de mesure. Et j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, nous vivons constamment dans une sorte de fiction. Nous nous inventons des personnages, nous nous mettons en marché en permanence. Et je n'échappe pas à ça, hein. Je ne dis pas comme si j'étais un pur, je n'échappe pas non plus. Mais il ne faut pas nécessairement renoncer à la fiction. Cela dit, je remarque qu'il y a une sorte d'intérêt, et je le vois chez moi, pour ce que les Américains eux-mêmes, et là, vous voyez, je n'échappe pas, appellent la non-fiction ou le récit. Et c'est un peu ce que je fais, d'ailleurs, dans mon propre chapitre sur la fiction, c'est que je me mets moi-même en récit, dans une sorte de récit un peu autobiographique, à demi-rêvé.
Est-ce que vous pensez que c'est ce qui explique le fait que dans L'Empire invisible, si on le compare à votre précédent ouvrage, Bienvenue au pays de la vie ordinaire, la place de la fiction, du roman, était, plus importante ou en tout cas plus immédiatement visible. Dans L'Empire invisible, justement, la fiction se fait moins présente. Au départ, je m'étais dit, peut-être qu'il a pris simplement la décision de glisser la fiction uniquement en citation, en exergue. Au départ, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais finalement, je me suis rendu compte que, bon, à moins que Freud soit rendu à faire de la fiction, ce qui est peut-être vrai par ailleurs. Mais est-ce que vous pensez que, justement, ça peut expliquer votre réticence ou votre moins grand intérêt à mobiliser la fiction, justement, pour penser la réalité que vous essayez de décrire? Mis à part Kafka, d'ailleurs, donc je ne sais pas si Kafka échappe un peu à cette... À votre diagnostic?
C'est une très belle question parce que je dirais d'une part que ce qui a changé dans ce livre-là, c'est que la fiction ou les œuvres de fiction forment moins, je dirais, des objets d'étude. Ça, c'est la différence. Parce que dans le premier livre, dans Bienvenue au pays de la vie ordinaire, il y a des chapitres qui sont des études, d'abord des études littéraires. Et il y a aussi des chapitres où la fiction, où les œuvres de fiction, par exemple, permettent de parler, par exemple, de la condition québécoise. Je pense à un chapitre que j'écris que c'est sur l'héritage de la pauvreté ou le fait que la littérature québécoise est habitée par cette espèce de conscience et d'expérience de la pauvreté. Cela dit, curieusement, j'ai l'impression que ce livre-là sur l'Empire invisible, en fait, la notion même de fiction s'est dématérialisée. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, elle est partout. Elle est partout parce que vous l'avez vous-même nommé, mais le cœur invisible de ce livre, c'est Kafka. Et d'ailleurs, Kafka est dans le sous-titre. Essai sur la métamorphose de l'Amérique. Et la métamorphose et l'Amérique, ce sont bien sûr deux livres de Kafka. Et la grande citation qui est le cœur battant de ce livre, c'est la fameuse citation où Kafka dit, dans des conversations avec Gustave Janouch, donc Janouch, un livre absolument magnifique qui m'a été présenté par Yvon Rivard, il faut lire ce livre-là, les conversations avec Kafka. Kafka dit, on ne peut pas briser de chaîne quand il n'y en a pas de visible. Et il me semble, et là, il décrit en fait la vie bourgeoise. Et il est en train de parler à son jeune auditeur en lui disant « Je rentre quand j'ai terminé ma journée de travail, je rentre chez moi, je prends l'ascenseur, je me mets à penser à ma journée, j'entre à la maison, je fais mon repas, tout ça. » Et il dit « Je pense que je suis libre, mais en réalité, je suis encore pris par des chaînes. » Et curieusement, c'est presque comme si Kafka anticipait le monde dans lequel on allait se retrouver. Et a fortiori, le monde dans lequel on se retrouve actuellement en pandémie, où plus que jamais, les chaînes qui nous attachent à nos emplois, les chaînes qui nous attachent à nos institutions,
C'est Zoom. Chaînes, c'est Zoom.
Les chaînes qui actuellement nous attachent, les liens qui nous attachent les uns aux autres sont des liens de plus en plus dématérialisés. Et donc, je dirais, non, la fiction est partout dans mon livre, mais elle n'est plus un objet, elle est devenue presque le modus operandi de la pensée, au point où il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient lu mon essai comme un roman. Et ça, pour moi, c'était presque un compliment. Enfin, c'était un compliment, parce que ça voulait dire que j'avais réussi quelque chose qui était presque de l'ordre du storytelling, mais tout en faisant un essai, quoi.
Je vais vous relancer justement sur cette question-là de la littérature parce que, bon, après beaucoup d'autres, vous avez évoqué un possible déclin de la littérature. Mmh. Vous suggérez toutefois que ce déclin-ci, si j'ose dire, a ceci de particulier, et je vais encore vous citer, qu'il se produit au moment précis où la fiction semble passer en passe de l'emporter sur la réalité. Donc, pourriez-vous nous en dire davantage sur ce diagnostic de déclin que vous avez déjà évoqué, sur son actualité, disons, surtout, et par la suite sur les conséquences de ce déclin-là, sur votre façon d'entrer, dans notre façon plutôt, d'entrer en relation avec la réalité?
OK. La première chose, c'est que le déclin dont je parle, c'est un déclin qui est relatif, c'est-à-dire je n'annonce pas la mort. Okay? Ça, c'est rien de plus, d'abord, de plus prétentieux que...
Vous n'êtes pas hégélien, donc.
C'est la mort de la littérature, la mort de l'auteur. Quand on relit des textes, par exemple, de Roland Barthes, de mm-hmm. Michel Foucault, dans leur période structuraliste ou post-structuraliste, on se dit, mon Dieu, tu sais, il y a quelque chose là de « après nous, le déluge », là. Je ne ferai pas cette erreur, d'accord? Cela dit, il est clair que les livres aujourd'hui, que ce soit des livres de littérature ou autre, sont en sérieuse compétition avec les écrans. Vous me direz qu'on peut lire des livres sur des écrans, c'est vrai, mais on peut surtout faire bien d'autres choses que lire des livres sur des écrans, ou alors on les lit d'un œil distrait, OK? Parce que les écrans nous appellent et ont besoin de notre attention et de notre interaction. Alors, il y a ça clairement qui joue. Ça, c'est une première chose. La compétition, la multiplication des plateformes et des médias avec lesquels on peut interagir. Mais ce que je pense qui est en train de se passer ou qui peut se passer, je m'attends pas à... j'annonce pas le déclin du roman, mais je pense qu'il se passe des choses. Et curieusement, parce qu'il y a beaucoup d'amis à moi, des littéraires, qui m'ont dit que ces phrases-là résonnaient pour eux parce qu'ils ont comme l'impression que ce qui se passe en littérature se passe beaucoup dans des genres qui étaient considérés comme moins dominant par rapport au roman. Le roman, c'est quand même le genre littéraire un peu canonique, le genre aujourd'hui qui est devenu, j'appellerais ça, le genre triomphant de la modernité capitaliste, libérale et individuelle, c'est-à-dire le grand. Pourquoi? Parce qu'au fond, le roman raconte essentiellement, depuis déjà le 17e siècle, et ça n'est allé qu'en se confirmant, l'histoire d'un individu qui naît au monde, qui se fait un nom. Et ça, c'est au fond la grande histoire du passage d'un monde traditionnel à un monde moderne, la rupture avec le monde, souvent un monde rural d'ailleurs, pour passer à la ville où se développent des relations selon des modèles qui n'ont plus rien à voir avec la tradition et qui ont tout à voir avec l'ambition, la compétition et avec la conquête. Et ambition, compétition, conquête, ce sont les ingrédients fondamentaux du capitalisme libéral. Et en fait, ce qu'on appelait le Bildungsroman, le grand roman d'apprentissage, toujours la même histoire qui est racontée, c'est l'histoire de quelqu'un qui essaie de se faire un nom, de devenir, en fait, quelqu'un qui essaie de devenir quelqu'un, de sortir du cercle familial ou villageois pour devenir quelqu'un. Et j'ai comme l'impression que ce modèle-là de l'individu triomphant dans la fiction est un peu fatigué. Et qu'aujourd'hui, l'individu, s'il cherche sa vérité, il la trouve peut-être moins dans le roman que dans l'essai, que dans la poésie même, dans des journaux intimes. Parce que je pense que, j'en ai fait presque une condition de la culture québécoise, mais à bien y penser, j'en ferais peut-être en fait une condition de la vie post-moderne, c'est qu'aujourd'hui, l'individu n'est plus certain d'exister. Et il doit d'abord se rassurer sur sa propre existence avant de pouvoir donner naissance à des individus fictifs ou d'autres individus. Et ce que je veux dire par là, c'est que... je pense que c'est un phénomène québécois. Toutes les cultures minoritaires, fragilisées, en danger, ont d'abord besoin... engendre des individus qui ont d'abord besoin de se rassurer sur leur propre existence. C'est pour ça que la poésie, l'essai sont si importants au Québec. Et aussi même, j'ajouterais, le roman autobiographique, le roman qui part d'un vécu, comme s'il fallait d'abord s'assurer d'exister. Mais j'ai l'impression que cette réalité-là, en fait, elle est en train de se répandre à peu près partout dans le monde. Je la vois en France, on la voit même aux États-Unis, parce que la postmodernité a ceci de singulier qu'elle a détruit ou fragilisé les récits par lesquels on s'assurait de sa propre existence. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a rien de plus banal que la recherche d'originalité. Nous sommes tous dans une quête éperdue d'originalité et par là, nous sommes parfaitement pareils. C'est ça qui est paradoxal. Et donc, il faut apprendre à se dire selon des en fonction de formes nouvelles ou de formes un peu négligées. Bon, je m'excuse, je m'emporte, là, mais...
Moi, j'aime ça, moi, c'est parfait. Oui, ben là, je vais essayer de faire un peu de pouce là-dessus. Donc, en une phrase, la fiction se découvre quand même complice de l'Empire, mais là, l'essai arrive, potentiellement, comme contrepoids. En parlant d'essai, vous avez remporté le prix Pierre Vadeboncœur, qui est remis annuellement au meilleur essai québécois. Prix qui, je dois le dire, est très mérité. Je vais le dire vite de même.
Merci.
Dans votre discours de réception, vous prenez le temps d'expliquer l'importance que Vadeboncœur a eue sur vous et votre parcours d'essayiste. Vous avez insisté sur la souveraineté intellectuelle de Vadeboncœur, mais aussi sur la nécessité d'une souveraineté pour quiconque voudrait écrire des essais. En vous écoutant tantôt dans la vidéo, j'ai eu le goût d'approfondir cette question-là. Selon vous, qu'est-ce qu'un auteur ou une autrice doit posséder pour écrire de bons essais? Donc, essayer de résister à la fiction et l'empire, à un certain point. Le rôle, c'est la job. Là. Et question parallèle, qu'est-ce qui caractérise l'essai en tant que tel? Là, je sais que c'est une grosse question. Là. Qu'est-ce que l'essai a de différent avec les autres formes d'écriture? C'est parti.
OK.
Top chrono!
Vraiment, plaisir à être avec vous, messieurs. C'est tellement stimulant, vos questions. Merci. Je vais essayer de répondre, hein, évidemment, et je vais m'essayer à répondre sans mauvais jeu de mots, parce que je pense que c'est ça qui est la grande force de l'essai. C'est que l'essai, c'est un art qui repose sur cette petite idée toute simple qui se trouve dans son nom. C'est que écrire un essai, c'est s'essayer, c'est-à-dire c'est tenter quelque chose, c'est faire un test, comme on le dit d'un pilote d'essai, hein, qui teste des choses sans garantie de résultat. Que l'essai, donc, par sa nature, est un genre qui vit bien avec l'incertitude, qui vit bien avec le doute, qui a besoin, en fait, du doute pour exister. Et ce que je dirais, pour reprendre un peu... Pour revenir à votre première partie de question qui était sur qu'est-ce que ça prend pour être un essayiste,
oui.
Je dirais d'abord...
Conseil.
Oui, c'est ça. Conseil à un écrivain.
Oui.
Bon. Alors, un jeune écrivain, c'est le même qu'il faut dire.
Oui, pardon, oui, c'est vrai. Je dirais que la première chose à laquelle il faut apprendre à résister, c'est aux formules toutes faites. Il faut apprendre à résister à la tyrannie de l'expertise. Et ce que je veux dire par là, c'est que le monde dans lequel le monde intellectuel et même médiatique dans lequel on évolue, c'est un monde qui tend à assigner à chaque individu une place très spécifique. On est dans une logique aristotélicienne qui est celle du quadrillage rigoureux du réel. Et donc, l'université n'échappe pas du tout à ça. C'est-à-dire que dans l'université, on vous dresse littéralement, on nous dresse à occuper notre créneau et à ne pas en déroger. Et quand on en déroge, on se fait taper sur les doigts, on se fait accuser de ne pas se mêler de ses affaires, et il y a des spécialistes et des défenseurs de leur créneau qui vont se sentir menacés à peu de choses. Et le problème, c'est que même dans les médias, c'est souvent à peu près le même genre de personnage qu'on invite pour parler de tel ou tel problème. On fait venir un expert ou une experte. Et le problème des experts et des expertes, c'est qu'ils sont tellement enfoncés dans leur sujet qu'en général, et je caricature un peu, mais c'est assez vrai, ce qu'on va retenir de leur intervention, c'est que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on le croyait, sans qu'on puisse arriver à aucune conclusion, d'accord? Et donc, en gros, la personne va nous expliquer que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer, que le monde est complexe et que, désolé, mais mon savoir, en gros, est trop difficile d'accès.
Personne ne peut comprendre. On ne peut pas comprendre.
On ne peut pas comprendre. Et donc, et c'est ce qui fait que des événements médiatiques comme les téléjournaux sont devenus insupportables et d'un ennui sans nom parce qu'en général, on réserve des interventions à des membres d'une chaire ou d'une autre qui nous apprennent à peu près jamais rien ou presque sur les phénomènes. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont renoncé à avoir un point de vue déjà. Ils ont renoncé à avoir un point de vue en se disant qu'avoir un point de vue, c'était trahir leur fonction qui est celle d'arbitrer les savoirs. Bien plus que de d'éclairer les choses. Et donc, la première chose à faire, et je vous le dis là, ça a été très douloureux pour moi parce que moi, je suis une débite de l'université. Je suis entré en 96 et je suis sorti en 2010. Donc, j'ai passé 14 ans de ma vie, bac, maîtrise, doctorat, post-doctorat. Et quand j'ai fait mon livre « Bienvenue au pays de la vie ordinaire », j'ai dû me désuniversifier. Okay? Et là, je veux que ce soit clair, c'est pas pour moi... c'est pas une posture anti-intellectuelle. C'est-à-dire, j'ai pas essayé de renoncer à mes savoirs ou de les barrer, mais j'ai essayé de comprendre quelque chose qui était un problème de l'université, qui est celui, j'appellerais ça, alors j'ai parlé de la tyrannie de l'expertise, mais j'ajouterais une autre logique, c'est que l'université nous a fait entrer dans un rapport de soupçon vis-à-vis du langage. C'est ce qui fait que nous passons une bonne partie de notre vie universitaire, à disserter sur le sens des mots, à montrer que tous les mots sont infiniment compliqués. En fait, je dirais même mieux que ça, que la langue est un champ de mines. Et d'ailleurs, c'est précisément à cela que les nouvelles approches, qu'on pourrait les appeler comme ça, sont très à la mode, que ce soit des approches, disons, idéologiques qui visent à rénover le langage, à nous empêcher de dire certains mots, ou à en dire d'autres plutôt que les anciens, tout cela relève de l'idée que la langue elle-même est devenue, au fond, le domaine auquel il faut s'intéresser. Et c'est très malheureux parce qu'en fait, on oublie le réel. C'est-à-dire, on est dans un univers un peu solipsiste, auto-référentiel, où on pense qu'en changeant des mots, en disant « il » plutôt que « il » ou « elle » ou peu importe, là, qu'on va faire avancer les choses. Et le problème de ça, c'est que pendant ce temps-là, le monde continue. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Gunther Anders, qui pour moi est un maître à penser, qui disait « Il ne suffit pas de changer le monde. Le monde change déjà sans notre intervention. Il faut d'abord comprendre le changement, comprendre comment le monde change pour ne pas que le monde change sans nous et que nous finissions par habiter un monde où il n'y a plus d'humain, qu'il n'y a plus d'homme. » Il disait le mot « homme » au sens humain. C'est-à-dire, et le problème actuel, j'ai l'impression, c'est qu'on est entré dans une logique où on a perdu de vue que la première fonction d'un intellectuel et a fortiori d'un essayiste, c'est tout simplement de comprendre ce qui nous arrive. Et de comprendre ce qui nous arrive. Et pour moi, c'est à cela que l'essai me conduit.
Je ne m'attendais pas à ce retour-là. C'est une réussite.
Oui, bon, ben, alors, c'est à comprendre ce qui nous arrive, quoi. Et c'est ça le travail de l'essayiste. Et comprendre ce qui nous arrive, c'est comprendre ce qui m'arrive, mais comprendre ce qui arrive à d'autres. C'est donc, pour moi, l'essai, c'est l'instrument qui me permet de m'ouvrir au monde et de faire la synthèse, exactement comme la faisait déjà Montaigne, entre l'expérience concrète et individuelle et l'expérience sociale, parce que Montaigne, c'est quelqu'un qui avait fait une carrière politique à Bordeaux, et la culture. Et de mettre les deux ensemble, puis d'arriver à quelque chose. Sans garantie de résultat.
non, mais les deux résultats que vous nous avez proposés sont plutôt probants. Donc, je pense que dans tous les cas, ce sont de bons conseils, je crois.
J'ai le goût de finir ça comme ça. Un gros merci, Mathieu Bellil. Je crois que l'essai L'Empire invisible est déjà un début d'antidote à ce fameux Empire invisible. Donc déjà, je pense que c'est beaucoup. Je suis certain qu'avec votre style d'écriture aussi délicat que précis, aussi accessible que libre, souverain, vous pouvez rejoindre un grand éventail de personnes. Ça, c'est très rare. En d'autres mots, je crois que ça serait un excellent présent pour les échanges de cadeaux qui s'en viennent. Je dis ça de même. Merci beaucoup d'avoir...
Les échanges de cadeaux, il ne faut pas être trop nombreux. Là. Faites attention.
On a parlé de virtuel, là, mais cette année, dans ma famille, on a un site Internet où que, là, tout le monde reçoit un courriel et on sait qui qu'on va piger. Puis là, tout le monde peut participer dans l'anonymat. Fait que le virtuel rentre même dans l'échange de cadeaux.
Formidable.
Là, ça, c'est un autre débat. Là. OK, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vivre la contradiction en plein, c'est-à-dire de parler du virtuel sur le virtuel.
Absolument.
On va se laisser avec l'excellente chanson 10-30 de Louis Clavis. Si je peux me permettre, je pense que l'album complet intitulé Homme-objet, c'est un excellent complément ironico-fataliste pour comprendre, disons, une autre perspective sur ce dont on vient de parler ce soir.
Vous savez, en passant, je me permets, Anthony, de dire que l'homme-objet ou homme-objet, c'est comme pour moi le pendant musical de Bienvenue au pays de la vie ordinaire. Il y a les mêmes... Et c'est formidable. C'est un album que j'écoute religieusement.
Oui. Les thèmes sont bons. La manière que c'est construit aussi, là, c'est vraiment une belle œuvre en tant que telle.
Tout à fait.
Donc, on va l'écouter. On va l'écouter.
Parfait.
Joins-moi au My Central, pis je serai ton boy toy. Je serai ton long fleuve tranquille. Je partagerai ta fatigue. Qui même me suit, me stalk, me voit. Je vais tout faire pour te conforter dans tes choix. Je serai ton heure de trafic, ton samedi au Ikea. Notre bonheur sera de s'il à regarder nos achats. Notre vie fera pas de bruit, je protégerai tes acquis. Easy money, paye une limousine, pis un sofa. Je veux qu'on m'entende, pas qu'on m'écoute. Je veux qu'on m'en sens quand tout s'écroule. Une petite vite dans l'air du vide, une petite joke à l'air du rire. Bienvenue sur le déplaisir, pour le meilleur du post-pire. Viens flotter sur nos pères. Ce qui nous passe sous les nous passe pas à travers le cœur. Soumis magnifique, beige bucolique. Si on échoue au pire, on deviendra influenceur. Hey, j'ai envie de parler au vrai monde. Être l'idole de la majorité. Parking. Viens chez nous, j'ai le driveway le plus grand en ville. Hey baby, tu votes plus. Pas grave, moi non plus. Hey chérie, t'aimerais une maison comme la mienne. Facile, celle de mes voisins sont toutes pareilles. Hey!
Tandis que nous poursuivons la lutte contre la propagation de la COVID-19, de nouveaux programmes de soutien sont en place pour les personnes qui en ont besoin, notamment un régime d'assurance-emploi plus fort et plus accessible, ainsi que 3 nouvelles prestations de relance économique. Continuer à soutenir les Canadiens maintenant nous aidera à assurer notre sécurité et à rendre le Canada plus résilient. Consultez canada.ca/le-coronavirus pour en savoir plus sur les nouveaux programmes de soutien aux revenus. Un message du gouvernement du Canada.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Ici Esther Brodage au microphone. Cette semaine, je tiens à vous souligner l'invitation de 6 magazines à soumettre une lettre afin de répondre au numéro 147 qui s'intitule « Gather, rassembler » d'ici le 23 décembre prochain. Si vous ne connaissez pas 6 magazines, bien c'est un magazine qui couvre les arts visuels, les arts technologiques, at large, basé à Toronto, et c'est vraiment très intéressant puisqu'il s'intéresse vraiment beaucoup aux nouvelles tendances, aux nouvelles philosophies de vie. Ils ont à cœur de représenter, d'encourager, de soutenir les artistes et les critiques d'art, historiens de l'art, journalistes, Bebop. Et ils prennent vraiment un tournant dans cette direction-là et c'est très bien. Ils ont toujours des thématiques surprenantes. Et la version imprimée du magazine comporte toujours une section lettres au début. Donc, ce sont des lettres écrites par des lecteurs, contributeurs, rédacteurs. Et ces lettres-là réagissent soit par un contenu informatif contestataire, d'essais. Donc, ils réagissent, ces lettres-là ont pour but de réagir au contenu des magazines, des numéros, pardon. Pour le numéro 148 d'hiver printemps 2021, bien, ils attendent, ces magazines, vos lettres sur la thématique du magazine actuel, numéro actuel, qui est le thème rassemblé. Ils veulent des lettres entre 100 et 400 mots. Les lettres sélectionnées, bien, reçoivent un petit honoraire et vous envoyez vos lettres avec, dans le sujet lettres, dans le subject de votre courriel, et vous envoyez ça à editor@cimagazine.com. Donc, vous envoyez ça d'ici le 23 décembre. Et ils encouragent beaucoup les artistes, les critiques d'art, journalistes, Bebop, ou bien ceux qui sont en solidarité ou qui soulignent des apports, des implications Bebop. Voilà. Je continue à soutenir le site Internet du Cinéma Politica. En temps de pandémie, ils offrent de très bons films dans la section Cinéma On Demand sur leur portail. Ils ont entre autres ce film qui s'appelle Birth of Family, ces temps-ci, un film de 2019 réalisé par Tasha Hubbard. Donc, c'est un film qui parle de la résilience communautaire entre une famille autochtone qui était victime, malheureusement, des politiques coloniales. Donc, c'est tout un processus, ce film, un pan de l'histoire qui est crucial, notre histoire canadienne. Donc, face à un système oppressif qui est cette histoire des pensionnats. Donc, c'est vraiment un film concentré sur une famille qui a vécu ces problématiques. Donc, on va finir le segment avec un message de solidarité que j'ai présenté, lancé la semaine passée. Donc, nous sommes des non-asiatiques et des asiatiques qui ont travaillé sur un message de solidarité. On a produit ce message pour réagir face aux agressions, face aux attaques envers les Asiatiques. C'est inacceptable. Donc, il y a eu des agressions, il y a eu même des meurtres à Montréal, au Québec, au Canada et dans les autres pays également. Dans ce contexte de pandémie, il faut faire preuve de solidarité et écoutons ce message. Merci beaucoup d'écouter Café. Au revoir.
L'épidémie mondiale de la COVID-19 a affecté les vies de chacun de différentes manières. Elle a également attiré notre attention sur l'intensification du racisme systémique et de la xénophobie sélective envers nos amis racisés dans notre société canadienne. Il est compréhensible que chacun d'entre nous se sente anxieux face à cette maladie dangereuse. Cependant, ce sentiment d'angoisse ne nous donne pas le droit de commettre des crimes de haine et de discriminer nos amis asiatiques, noirs, autochtones et autres personnes racisées. Il n'est pas acceptable d'associer la maladie COVID-19 aux Asiatiques, en particulier à ceux d'origine chinoise. Il n'est pas acceptable de commettre des abus physiques et psychologiques à l'égard des personnes racisées. Il n'est pas acceptable de vandaliser des entreprises appartenant à des Asiatiques et à d'autres marginaux. Nous devons arrêter de normaliser et cesser d'accepter les comportements racistes et les discours de haine à l'endroit de toute communauté racisée. Au contraire, pendant cette crise d'épidémie mondiale, nous devons ensemble nous éduquer et comprendre les concepts de race, de racisme systémique et de la justice raciale au Canada et ailleurs. Souvenons-nous, malgré qui et où nous sommes tous humains. Nous devons apprendre à nous tenir ensemble en tant que citoyens du monde pour une communauté plus saine, plus sûre et plus heureuse.
En raison de pandémie, CKUT a décidé de rapporter Indéfinim, notre campagne de financement annuelle. Mais nous apprécions toujours les dons pour soutenir nos opérations durant la fermeture. Le moment présent exige des nouvelles approches créatives, et des douzaines d'animateurs et animatrices ont relevé le défi en maîtrisant les logiciels pour vous livrer les émissions de très haute qualité. Nous sommes conscientes que CKUT 90.3 FM vous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous faisons appel à votre générosité. Si votre situation vous le permet, nous vous invitons de vous rendre sur notre site web ckut.ca et de faire un don en appuyant sur le bouton vert de donation ou d'envoyer un chèque par la poste à Radio CKUT 3647 rue Université H3A2B3 Montréal, Québec. Merci.
On the 28th of October in 2004, David planned to do a deep dive. We knew there was a body there from 1994. What we didn't expect was to find it. We both knew that we was going to go back and pick that body up.
Okay, we can do it again.
I find myself back in this beautiful location after the previous world record dive where I discovered the Andrea's body.
I was excited by it because of the challenge of it. Like, how would you retrieve a body from 260 meters?
It'd take Dave 17 minutes to reach the bottom, but 12 hours to surface.
I really must emphasize that the most important person on the dive is you. It's better to have one person dead than two.
We were just divers doing something that we really, really enjoyed and had a passion about. And this dive became something so much more.
I have no idea what happened. The only thing that I know is that he wasn't there.
When I got him over that edge and I looked at him and I thought, oh, fuck, you know, this is bad.
No one can breathe for you, no one can swim for you. The safest thing that a diver can do is not dive.
On vient tout juste d'entendre la bande-annonce du film Dave Not Coming Back, qui s'intitule aussi La dernière plongée de Dave, un film dirigé par Jonah Malak qui est sorti en 2020, donc ça fait quelques mois qu'il est sorti, mais c'est un film qui aurait très bien pu paraître il y a de cela déjà 15 ans si tout s'était bien passé.
En 2004, Dave Shaw décide d'aller briser le record de profondeur d'une plongée sous-marine en allant explorer la crevasse mythique de Bosmansgat en Afrique du Sud. Alors, il descend à environ 270 mètres de profondeur et il trouve le corps d'un plongeur disparu dans la crevasse il y a déjà 10 ans. Alors, Dave, quand il voit le corps de cet autre plongeur disparu, il décide de retourner chercher le corps et pour ce faire, il s'entoure d'une équipe de 8 plongeurs et d'un caméraman pour filmer cet exploit. Mais en quoi, finalement, est-ce que c'est un exploit d'aller chercher un corps à 270 mètres de profondeur? Pourquoi Dave n'a pas juste remonté le corps avec lui lors de sa première plongée? Pour les novices en matière de plongée sous-marine, comme moi, c'est des questions qui nous habitent lors des premières minutes du documentaire jusqu'à ce qu'on comprenne mieux les implications techniques d'une plongée aussi profonde. Parce que descendre à 270 mètres de profondeur, c'est pas si compliqué, ça va prendre à Dave environ 17 minutes, mais la remontée, pour sa part, elle dure environ 12 heures. Donc, pourquoi ça prend autant de temps remonter à la surface? C'est parce qu'il y a un temps de décompression qui est nécessaire au corps humain pour revenir sain et sauf d'une telle profondeur. Lorsque les plongeurs et les plongeuses remontent, ils doivent s'immobiliser à différents niveaux de profondeur et attendre plusieurs heures avant de poursuivre. Imaginez un peu passer 12 heures immergées dans l'eau profonde, dans le noir total. Plusieurs plongeurs et plongeuses vont comparer l'expérience à être dans l'espace. Ils vont même témoigner de la quiétude infinie qui découle de cette expérience-là. Donc, chaque minute qui est passée dans les tréfonds aussi creux augmente le temps de décompression qui est nécessaire. Alors, il ne faut pas perdre de temps dans aucune des manipulations à faire, comme par exemple attacher un corps mort après soi pour remonter à la surface. En plus de ça, à 270 mètres de profondeur, chaque mouvement implique une quantité d'énergie assez difficile à imaginer. C'est facile de s'épuiser en faisant juste des petites manipulations et même de perdre connaissance. Et c'est ce niveau de difficulté-là qui va causer la mort tragique d'un deuxième plongeur dans la crevasse de Bosmansgat. C'est pourquoi le film s'appelle « La dernière plongée de Dave », donc je vous raconte aucun punch, on le sait dès le début. Et puis si ça vous intéresse d'écouter ce film très captivant, pour l'instant on peut le louer sur iTunes, mais surveillez quand même peut-être la page Facebook du film « Dave's Not Coming Back » pour avoir plus d'informations si ça joue dans des cinémas en zone orange, si vous y êtes.
Tandis que nous poursuivons la lutte contre la propagation de la COVID-19, de nouveaux programmes de soutien sont en place pour les personnes qui en ont besoin, notamment un régime d'assurance-emploi plus fort et plus accessible, ainsi que 3 nouvelles prestations de relance économique. Continuer à soutenir les Canadiens maintenant nous aidera à assurer notre sécurité et à rendre le Canada plus résilient. Consultez canada.ca/le-coronavirus pour en savoir plus sur les nouveaux programmes de soutien aux revenus. Un message du gouvernement du Canada. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
Time.
C is for...
Cauliflower.
Confusion. Creation.
Pickle. K is for...
Kitten.
Camp.
C, wait. Unroofly. U, unbearable.
U is for underground.
Oh, yeah.
Umbrella.
T. Trite.
Tremendous.
Torment.
Tire.
C, K...
I can't think of a U one! T.
T.
F is for famous.
Fun. Fumble. M is for...
Hola amigos, bienvenidos a nuestra emisión quincenal, escuchando América Latina, aquí en CKUT 90.3 FM.
Les informaremos a ustedes sobre el arte, la cultura, poesía y turismo.
También tenemos deportes, información actual y mucho más.
América Latina eres tú.
América Latina es ella.
América Latina es él.
América Latina somos nosotros. América.
Argentina.
Bolivia.
Brasil.
Chile.
Costa Rica.
Colombia.
Cuba.
Ecuador.
El Salvador.
Guatemala.
América. Honduras.
México.
Nicaragua.
Panamá.
Paraguay.
Perú.
República Dominicana.
Uruguay.
Venezuela.
Pasan los días y yo deseo.